VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au Bénin, rendez-vous au deuxième tour dans le face-à-face Lionel Zinsou, Patrice Talon pour la présidentielle. Les grandes tendances de ce scrutin ont été rendues publiques tôt ce matin. Le taux de participation au scrutin présidentiel béninois est de 64%. Lionel Zinsou recueille 28,4% des suffrages exprimés. Et l'homme d'affaires Patrick Talon a totalisé, lui, 23,03% des suffrages exprimés. Au Sénégal, la campagne pour le référendum du 20 mars est déjà lancée. Le président Macky Sall a fait l'objet de vives critiques après son revirement, selon ses détracteurs, sur la réduction de son premier mandat. Les partisans du oui comme ceux du non affûtent leurs armes en vue de cette consultation populaire. Idriss Fall.
Le mouvement Yanamar est très remonté contre le président sénégalais. Le président Macky Sall est surtout accusé d'avoir violé sa parole, d'avoir fait un revirement après un engagement ferme et répété à plusieurs reprises qui réduirait son mandat actuel de 7 à 5 ans. Le mois dernier, après avis du Conseil constitutionnel, Macky Sall a dit que cette réduction ne pouvait s'appliquer à son premier mandat. Donc, il restera au pouvoir jusqu'en 2019. Aboubakri Mbodj, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme.
D'abord, vous savez qu'en Afrique, la parole est sacrée. Quand on donne un engagement, surtout qu'on n'est pas forcé à parler, c'est lui-même qui a pris de sa propre initiative de ramener son mandat à 5 ans. S'il revient sur sa parole, ça pose un problème du point de vue de l'engagement moral.
Les partisans du président sénégalais ne sont pas du tout de cet avis. Pour eux, Macky Sall a pris rendez-vous avec l'histoire. Djibril Baldé de Benno Bok Yakar, la coalition au pouvoir.
C'est extraordinairement rare de voir en Afrique un président de la République qui propose effectivement à son peuple de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et que ceux qui s'agitent pour dire non, nous sommes en démocratie, les gens peuvent s'exprimer. Mais le plus important, c'est de respecter la volonté du peuple sénégalais. Et je pense que le oui va effectivement l'emporter.
Au Congo-Brazzaville, le candidat à l'élection présidentielle du 20 mars, Jean-Marie Michel Mokoko, a dénoncé le harcèlement judiciaire dans le déroulement de sa campagne électorale. Ce général, ancien collaborateur du président Denis Sassou Nguesso, même passé à l'opposition, fait en effet l'objet de poursuites de la part des services de la police alors qu'il doit aller dans les départements pour battre campagne. Il a demandé que ces poursuites soient suspendues jusqu'à la fin du processus électoral.
Dans un État qui se respecte, lorsque nous sommes en période électorale et que un des candidats a vu sa candidature validée, sans que l'action de justice ne soit écartée, parce qu'à ce titre-là, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on bénéficie d'une immunité, mais la bienséance commanderait que l'on suspende ces interpellations intempestives pour pouvoir laisser le candidat battre campagne librement, puisque je ne quitterai pas le pays. Je peux donner ma parole d'honneur que je ne quitterai pas le pays puisque je suis allé me mettre moi-même à la disposition de la justice. C'est donc un gage de bonne volonté. Le peuple peut se rendre compte quand même que le 4, je n'ai pas pu battre campagne, qu'on me laisse aller à la rencontre de mes compatriotes avec qui j'ai beaucoup de choses à partager, de ce qu'eux aussi pensent et de ce qu'eux souhaiteraient voir le prochain président de la République faire pour le bien de ce pays.
Le général Mokoko, au micro de notre correspondant à Brazzaville, Ngoula Nguessou.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
8 mars, journée internationale de la femme sur le continent, un combat représente les dangers et les défis auxquels font face les femmes en Afrique, les filles de Chibok au Nigeria. Le mouvement Bring Back Our Girl est né il y a presque 2 ans après l'enlèvement de plus de 250 lycéennes de la ville de Chibok par Boko Haram. Seules 57 d'entre elles ont retrouvé depuis la liberté, mais le combat continue, comme l'a constaté l'envoyé spécial de VOA Africa à Abuja, Nicolas Pino.
Tous les jours à 17h, le rituel est le même dans ce parc de la capitale nigériane. Ils sont une vingtaine rassemblés près de Unity Fountain, un monument qui célèbre l'unité de tous les États qui composent la Fédération du Nigeria. Les caméras de télévision ont disparu, mais pas la motivation des militants du mouvement Bring Back Our Girls. En ce 8 mars, cela fait 694 jours que les filles de Chibok ont été enlevées par Boko Haram, mais l'espoir demeure, selon l'un des participants, Waziri Bello.
Je crois toujours que les filles de Chibok sont en vie et peuvent être secourues. Le gouvernement nigérien a la responsabilité de secourir tout citoyen qui se trouverait dans cette situation. Je suis là parce que ces filles sont pauvres et donc n'ont pas de voix dans ce pays. Elles ont besoin de quelqu'un qui parle en leur nom.
Bring Back Our Girls est né pour attirer l'attention du régime Goodluck Jonathan sur le sort des lycéennes. Désormais, le président nigérian s'appelle Muhammadu Buhari à Abuja. Et officiellement, la menace Boko Haram a beaucoup diminué. Une version contredite par le journaliste Eman Ousmane Chehou.
The president likes to say that Boko Haram has been technically defeated.
Le président aime dire que Boko Haram a été défait. Je n'y crois pas. Oui, Boko Haram ne peut plus à détruire comme il le faisait auparavant. Mais nous savons de par l'histoire de Boko Haram que ce groupe peut battre en retrait et revenir en force. Tant que les recommandants de Boko Haram ne sont pas éliminés, la menace perdure.
Au fil des mois, le combat pour faire libérer les filles de Chibok s'est élargi. Il s'agit aussi d'un combat féministe, comme l'explique Aïcha Yesoufou, l'une des porte-parole de Bring Back Our Girls.
Dans ce pays, malheureusement, quand quelqu'un est pauvre, il n'a aucune voix, aucun nom, aucun visage. Pour moi, se battre pour les filles de Chibok, c'est se battre pour la jeune fille que j'étais il y a des années et qui pleurait à l'aide et personne n'est jamais venu. Et donc, je ne peux pas les laisser tomber. Le combat pour Chibok, c'est le combat pour sauver l'âme de ce pays. Le kidnapping des filles de Boko Haram traduit tout ce qui ne va pas dans ce pays.
Aboubakar Youssouf veut aussi en faire un combat pour l'éducation au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique est encore à la traîne en matière de scolarisation.
Si on n'arrive pas à garantir l'éducation pour nos jeunes enfants, où est le futur de notre pays? L'avenir de n'importe quel grand pays repose sur une population éduquée. Le Nigeria compte aujourd'hui 10,5 millions d'enfants non scolarisés et pourtant, ceux qui vont à l'école pour briser les chaînes de la pauvreté sont attaqués.
Le 14 avril prochain marquera un triste anniversaire, celui de l'enlèvement il y a 2 ans des filles de Chibok. 57 ont réussi à rentrer chez elles, 219 manquent toujours à l'appel. Nicolas Pinault, Abuja, VOA Afrique.
Et les forces de l'ordre tunisiennes continuent aujourd'hui le ratissage de la région de Ben Gardane, proche de la Libye, théâtre hier d'attaques djihadistes coordonnées. Le bilan définitif des attaques est de 36 extrémistes tués, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués d'après le premier ministre Habib Sid. Michel Joseph.
Lundi, à l'aube, des djihadistes avaient attaqué une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale tunisienne à Ben Gerdane, une ville de 60 000 habitants proche de la frontière avec la Libye. Le chef du gouvernement Habib Essid avait affirmé que leur but était d'établir un émirat du groupe État islamique à Ben Gerdane, tandis que le président Béji Caïd Essebsi a évoqué une attaque sans précédent coordonnée. Les autorités ont aussi annoncé avoir saisi d'importantes quantités d'armes de guerre et de munitions. Le nombre total de djihadistes impliqués n'est pas connu, tout comme leur identité, mais les autorités ont souligné que 7 d'entre eux avaient été arrêtés.
La justice algérienne a condamné aujourd'hui à 6 mois de prison, dont 3 fermes, un prédicateur salafiste ayant demandé l'exécution du journaliste et écrivain Kamel Daoud pour apostasie. L'imam Abdel Fattah Amadesh Zirawi était poursuivi pour menace de mort. Le procureur avait requis contre lui 6 mois de prison ferme et une amende de 50 000 dinars. La disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines, peu après son départ de Kuala Lumpur pour Pékin avec à son bord 239 passagers, reste un mystère, indique un rapport annuel d'enquête publié ce mardi, 2 ans jour pour jour après la disparition de l'avion. À ce jour, l'épave du vol 370 n'a toujours pas été retrouvée malgré la poursuite des recherches dans le sud de l'océan Indien, précise le rapport qui ne fournit aucune nouvelle indication sur les circonstances de la disparition de l'appareil. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, il vous sera présenté par Henri Francisque. Jean-Roger Billon à ce micro. Bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.